Europe 1, il est 8h.
Thierry Breton a un côté, je dirais, jovial, rond, qui, je pense, le rendra plutôt sympathique aux yeux de beaucoup de collègues européens. Autrement dit, c'est pas le français qui la ramène, quoi. Et ça, ça fait du bien.
Le soutien de l'eurodéputé et patron des Verts belge Philippe Lambert en faveur de Thierry Breton, le candidat français à la Commission européenne qui voit son dossier examiné dès aujourd'hui à Bruxelles sur la question d'un éventuel conflit d'intérêts.
Le difficile réveil des habitants du Teil en Ardèche. Les dégâts sont importants dans la commune la plus touchée par un séisme inédit en France métropolitaine depuis 16 ans. Certains ont dû passer la nuit dans un gymnase. Nous serons sur place dans ce journal.
La bataille de l'opinion est engagée sur l'interdiction ou pas des animaux sauvages dans les cirques. La mairie de Paris veut les proscrire. Certains cirques veulent au contraire les maintenir au nom de cette même opinion publique.
Si à un moment donné l'opinion publique ne voulait plus des animaux sauvages dans les cirques, eh ben je ne pense pas qu'on serait complet à chaque spectacle.
Des djihadistes français jusqu'alors détenus par les Turcs, bientôt de retour en France, essentiellement des femmes. Ankara a décidé de les expulser. Sur ce sujet, votre invité politique, Sonia.
Le député européen Rassemblement National, Gilbert Collard. Que faire face à ces retours? Quelle politique française et quelle réaction aussi face à la Turquie d'Erdogan?
Tony Parker, le meilleur basketteur français de l'histoire, définitivement devenu une légende cette nuit. Élevé au rang d'immortel dans son club chéri des Spurs, son numéro ne sera plus jamais porté le 9. Ambiance de feu pour Tipeee au AT&T Center. Nous étions sur place cette nuit. Reportage à la fin du journal. 8h02, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et c'est l'heure de vérité pour Thierry Breton. Le dossier du nouveau candidat de la France pour la Commission européenne sera examiné ce matin à Bruxelles avant un grand oral jeudi, suite au rejet de la candidature de Sylvie Goulard. Cette séquence, bien sûr, est cruciale pour la France.
Oui, et le point essentiel, la question essentielle, persuader les eurodéputés qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts avec Atos, le groupe informatique qu'il dirigeait il y a peu à Bruxelles. Notre correspondante Isabelle Horry.
Thierry Breton a pris les devants sur les conflits d'intérêts. Dans une déclaration de 10 pages, l'ex-patron du géant des services informatiques explique qu'il a vendu toutes ses actions à Atos, qu'il renonce à toucher sa retraite et il promet de se récuser s'il doit prendre une décision qui concerne son ancienne entreprise. Insuffisant pour les purs et durs, l'eurodéputé de la France Insoumise Manon Aubry s'inquiète du poids d'Atos dans la défense ou l'intelligence artificielle, domaine dont le commissaire français aura la charge. D'autres sont au contraire séduits par son profil d'ingénieur venu du privé, comme le patron des Verts, le Belge Philippe Lambert, ravi que le français ne soit pas énarque.
Il n'a pas cette arrogance de la technostructure française qui fait plus qu'agacer ici dans les milieux européens. Et Thierry Breton a un côté, je dirais, jovial, rond, qui, je pense, le rendra plutôt sympathique aux yeux de beaucoup de collègues européens. Autrement dit, c'est pas le français qui la ramène, quoi. Et ça, ça fait du bien.
À droite aussi, le ton a changé. Les conservateurs européens qui ont fait chuter Sylvie Goulard voient d'un meilleur œil cet ancien ministre de Jacques Chirac. Il faut dire que Christian Jacob, le patron des Républicains, a passé quelques coups de fil. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe.
C'est un réveil douloureux pour de nombreux habitants du Teil en Ardèche. Les dégâts sont immenses dans la commune la plus touchée par un séisme inédit en France métropolitaine depuis 16 ans. Séisme, on vous le rappelle hier, de magnitude 5,4 et certains ont dû passer la nuit dans un gymnase.
C'est le cas de Marie, 76 ans Marie. Sa maison s'est littéralement écroulée sur elle. Elle s'en sort indemne, quasiment par miracle, mais profondément choquée. Elle est partie sans rien. Tout juste a-t-elle eu le temps de prendre son chien, bien sûr. Marie a passé la nuit dans un gymnase, donc. Et elle a du mal encore à réaliser ce qui lui arrive.
C'était horrible. Les murs du haut, du bas, du rez-de-chaussée, c'est défait, j'ai plus de maison. C'est terminé la maison. Tout l'intérieur est écroulé. Tous les placards se sont ouverts, les murs se sont fendus. Une maison fantôme, voilà. Maintenant j'ai une maison fantôme.
Vous n'avez plus de maison?
Plus du tout. J'ai une maison qui est finie de payer, puis que j'ai plus. Je suis à la rue là, vous voyez? Je suis là.
Là vous dormez ici?
Oui, oui.
Vous avez pu prendre quelques affaires?
Mon chien, tout est là-bas.
Vous pensez que vous pourrez un jour retourner dans votre maison?
Non, je ne retournerai pas là. Elle va être démolie, ma maison. Elle est finie. Il faut la voir pour y croire. Oui. Je vais avoir ça toute ma vie, moi, dans la tête. Les assurances, elles vont mettre des mois pour nous payer quelque chose.
Vous allez aller où, madame?
Aucune idée. C'est néant. Je n'ai pas réalisé, je vous dis. J'ai plus de maison. Une clocharde.
Témoignage recueilli au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Le bilan de ce tremblement de terre est de 4 blessés, dont l'un se trouve toujours dans un état critique. Les établissements scolaires seront fermés aujourd'hui dans la région et l'activité de la centrale nucléaire de Cruas a été arrêtée le temps d'une inspection de sécurité. Aucun dégât n'a été constaté sur le bâtiment.
Ils entendent dénoncer la précarité de certains étudiants. Le syndicat solidaire appelle à se mobiliser aujourd'hui devant tous les Crous de France. Une quarantaine de rassemblements qui sont prévus à Bordeaux, Avignon, Nantes, Paris, mais aussi évidemment à Lyon, dès ce matin, 10h.
Oui, là où un étudiant de 22 ans s'est immolé par le feu vendredi dernier, il avait expliqué dans une lettre ses grandes difficultés financières. Il avait perdu à la rentrée sa bourse. Brûlé à 90%, il reste hospitalisé entre la vie et la mort.
Bonjour Mélanie Luce.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Vous vous mobilisez aujourd'hui partout en France pour dénoncer la précarité de certains étudiants. Alors, simple question, cette précarité, comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, comment on explique cette précarité ? La précarité étudiante, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Par contre, c'est un phénomène qui s'aggrave. Et c'est le résultat aujourd'hui d'un système d'aide sociale qui est à bout de souffle et qui ne permet pas aux étudiants de prendre leur indépendance et de vivre tout simplement décemment. On a un système qui est à la fois insuffisant, injuste, infantilisant et incohérent, qui nous empêche donc d'être bien accompagnés. Et en plus, là récemment, on a combiné à la fois une augmentation du coût de la vie générale, puisqu'il y a une inflation pour toute la population, et pour nous, un gel de nos aides sociales, voire une baisse, que ce soit les bourses ou les APL. Le gouvernement n'a fait que raboter les droits des étudiants ces dernières années, et donc c'est ce qui nous amène à une situation de plus en plus critique. Pour nous, il y a urgence, il faut vraiment qu'on ait une réaction publique rapidement.
Vous l'avez dit, cela dure depuis des années, même si cela s'est aggravé ces derniers temps. Mais alors, que proposez-vous si vous aviez une mesure emblématique qu'il fallait prendre immédiatement, en urgence ?
Nous, ce qu'on demande, c'est un plan d'urgence de refonte de nos aides sociales. Ce plan-là, il doit permettre d'augmenter le nombre de personnes qui touchent les bourses, d'augmenter le montant de nos bourses, mais aussi d'augmenter le nombre d'aides d'urgence. Puisque vous l'avez dit, l'étudiant qui s'est immolé, il s'est immolé suite à avoir perdu sa bourse, mais il a également fait une demande d'aide d'urgence qui lui a été refusée. Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on n'a pas assez de budget pour que les Crous attribuent suffisamment d'aides d'urgence. Et pour nous, il faut vraiment que le gouvernement investisse. Le budget de l'année 2020 n'est pas totalement adopté. Pour nous, il y a urgence aussi là sur ce sujet-là.
Merci Mélanie Luce. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 8h ce matin. Présidente de l'UNEF sur Europe 1.
Des lions, des éléphants, des tigres ou encore des lamas, la ville de Paris s'apprête à voter pour l'interdiction de ces animaux sauvages dans les cirques. Et déjà dans la capitale, de nombreux cirques ont pris les devants, même si certains font de la résistance et promettent de mener le combat.
Alors si l'interdiction est actée au Conseil de Paris, ça veut dire qu'on ne verra plus ces animaux dans des numéros à partir de l'an prochain, Virginie Salmen.
En ce moment, à Paris, aucun cirque ne présente de numéro avec des animaux sauvages. Mais devant le cirque d'hiver, le public semble l'ignorer.
J'attends de voir des animaux, principalement pour les enfants.
Quoi par exemple comme animal ?
Des éléphants.
Et toi, tu sais ce que tu vas voir ?
Des hippopotames.
Pourtant, 65% des personnes interrogées se disent contre les animaux sauvages dans les cirques, selon le dernier sondage d'Association pour le bien-être animal, tendance qui sous-tend le vote à la mairie de Paris. C'est peut-être vrai pour les Français en général, mais pas pour les amoureux du cirque, selon Rémi Bécuve, du cirque Arlette Grusse, qui va s'installer fin novembre sur la pelouse de Reuilly à Paris, avec 6 lionnes dans son spectacle, lui aussi à ses chiffres.
On a fait un sondage sur l'accueil du public, les conditions, etc., etc. Et est arrivé loin devant les autres le numéro de Lyon. Donc les gens réclamaient des fauves. Sur 3000 questionnaires, on a eu plus de 75% qui ont répondu les fauves en 1. Donc si à un moment donné l'opinion publique ne voulait plus des animaux sauvages dans les cirques, eh ben je ne pense pas qu'on serait complet à chaque spectacle.
Et pour 2020, le cirque Bouglione promet de son côté un spectacle avec des éléphants. Le combat continue. Ils ont l'intention d'attaquer la mairie de Paris si l'interdiction est votée.
Virginie Salmen pour Europe 1.
Europe 1. Vous restez bien avec nous dans un instant, des djihadistes français jusqu'alors détenus en Turquie. Bientôt de retour en France, qui sont-ils et comment le gouvernement va-t-il les gérer ? A tout de suite pour en parler.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Erdogan avait menacé et il vient de mettre sa menace à exécution. La Turquie décide l'expulsion de djihadistes étrangers, des membres de l'organisation terroriste État islamique détenus par le régime d'Ankara, dont 11 Français, principalement des femmes, qui doivent bientôt rejoindre l'Hexagone.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
À quoi jouent les Turcs? Pourquoi cette précipitation?
Le ministre turc de l'Intérieur ne cache pas son mépris quand il parle aux Européens. Pas besoin de courir dans tous les sens, que ça vous plaise ou non, nous vous renvoyons vos propres gens. Et on sent que Süleyman Soylu jouit de faire honte aux Européens et dénoncer leur lâcheté, ça plaît aussi à son opinion publique. Le silence gêné des Européens face à ces provocations leur donne d'ailleurs raison. Les Turcs nous font payer notre soutien aux Kurdes du PKK, leurs pires ennemis, et aussi de les avoir accusés de tuer l'OTAN. C'est avec empressement que le ministre de l'Intérieur a donc rembarqué hier dans l'avion les premiers islamistes que ses services laissés hier débarquer sans problème.
Empressement, dites-vous, mais Vincent, pourquoi et comment expliquer une telle urgence?
Les expulsions à grand tapage sont un chantage, les terroristes servent de monnaie d'échange, comme les millions de réfugiés auxquels Recep Tayyip Erdogan menace d'ouvrir les frontières une fois de plus. Il s'agit toujours de faire payer l'Europe, à défaut d'avoir construit des prisons ici et un arsenal de lois pour y enfermer les anciens du califat. L'Europe va donc financer les villes nouvelles que la Turquie veut construire dans le bout de Syrie qu'elle a conquis pour y reloger une partie des réfugiés. Erdogan dit « l'Europe paiera ». Comme on disait il y a un siècle, l'Allemagne paiera, parce que à la guerre, quand on perd, eh bien toujours on paye.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent. Et sur ce sujet du retour des djihadistes, notre invité dans quelques minutes sera le député européen Rassemblement National, Gilbert Collard.
Regain de tension cette nuit. Au Moyen-Orient, un haut commandant palestinien de l'organisation du djihad islamique a été tué par une frappe israélienne dans la bande de Gaza.
Et en représailles, de nombreuses roquettes ont été tirées en direction de Tel Aviv. Les sirènes d'alarme ont été activés dans la ville. L'armée israélienne dit s'attendre à plusieurs jours d'affrontements.
La situation en Bolivie qui s'aggrave sans dirigeants et en proie à de nouvelles violences.
Des pillages, des affrontements et des incendies criminels ont rythmé la nuit dans plusieurs quartiers de La Paz, la capitale administrative de la Bolivie. Quant à Evo Morales, l'ex-président désormais, le Mexique vient de lui accorder l'asile politique et il serait déjà en route.
Tipeee, alias Tony Parker, entre au Panthéon des San Antonio Spurs.
Hommage à l'immense basketteur français à la retraite depuis peu. Tony Parker a vu cette nuit son maillot accroché au plafond du AT&T Center de San Antonio. Ce qui veut dire que plus personne ne portera plus son numéro 9. Un honneur rare en fait, c'est même une première pour un Français en NBA aux États-Unis. Notre correspondant Xavier Yvon.
D'un coup, toute la salle se lève. 18 000 visages se tournent vers le plafond du stade. Number 9, forever. Numéro 9, pour toujours, clame le speaker. Lentement, le voile se lève sur l'immense maillot blanc au nom de Tony Parker. Le basketteur français, les yeux brillants, debout au centre du parquet, entre à ce moment-là dans la légende des Spurs. San Antonio sera toujours ma maison, avait dit quelques instants plus tôt Tony Parker devant des fans en transe. Leur mot d'ordre ce soir, c'était
« Merci Tony ».
Merci Tony.
Merci Tony.
Merci Tony, inscrit sur les murs, sur les écrans, sur les t-shirts distribués à chaque spectateur. Merci Tony, mais pas seulement pour les 17 saisons et les 4 titres NBA. Players that have character. Tony Parker, c'est aussi une personnalité attachante, raconte Greg Popovich, l'entraîneur mythique des Spurs. C'est un de ces joueurs qui pense plus au groupe qu'à lui-même. Il est la classe incarnée. Sur le parquet, Tony Parker prend la pause avec ses amis sportifs français qui ont fait le voyage, Teddy Riner, Thierry Henry et bien sûr la bande des basketteurs, Boris Diaw, ex-coéquipier chez les Spurs et chez les Bleus. Il faut comprendre l'importance d'un tel accomplissement aux États-Unis, explique-t-il.
Des joueurs qui viendront même dans 50 ans, quand les Spurs joueront, verront ce maillot-là. Donc tu marques l'histoire, mais pas seulement dans les livres. Il y a vraiment une présence physique qui est là, donc c'est vraiment un honneur particulier.
Et Nicolas Batum, autre ami basketteur en chérie, c'est comme si en foot, on n'avait plus jamais donné à un joueur le numéro 10 de platine. San Antonio, Xavier Yvon, Europe 1.
Imaginez pour Zidane, s'il n'y avait pas eu le numéro 10 de Platini. Une petite info musicale pour terminer ce journal, Sonia. Ce sont nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui nous l'apprennent. Starmania, pour les 40 ans de Starmania, Luc Plamondon annonce une nouvelle version. Starmania n'a pas été joué en France depuis 2001. 6 octobre 2020, à partir du 6 octobre 2020, à la scène musicale, puis en tournée dans les Zéniths à suivre. Attention Sonia, attention, la mise en vente,
je
c'est aujourd'hui.
Je ne fais qu'accompagner.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril.
Je le disais, la mise en vente, c'est à partir d'aujourd'hui, 6 octobre, à la scène musicale. On aura l'occasion d'en reparler. 8h16. Ça fait rire les passants.